bonjour pour ce second épisode des podcasts de la recherche. Aujourd'hui, nous accueillons un spécialisé en sociologie et sciences politiques dont les domaines de recherche comprennent la sociologie historique du politique et des relations internationales, la sociologie de la diplomatie et du militaire, les études islamiques et tout particulièrement une zone, la Malaisie, l'Asie du Sud-Est, ainsi que l'intégration régionale asiatique. Vous êtes diplômé de l'IEP de Lille, titulaire d'un certificat d'études islamiques obtenu à l'Université internationale islamique de Malaisie et d'un DEA de relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est d'ailleurs là que vous avez soutenu votre thèse de doctorat en sociologie en 2011, intitulée « État, société et religion en Malaisie, sociologie historique des dynamiques de l'islam et de leur implication dans le champ public » sous la direction de Yves Deloy. Au-delà des titres universitaires, vous êtes membre de nombreuses institutions, membre du conseil scientifique et pédagogique de l'INSHEA, membre du comité éditorial de la revue Mousson, membre du bureau de rédaction de la revue Dynamique Internationale, également membre du conseil scientifique et pédagogique de l'INSHEA. On oublie sûrement ici certaines de vos activités, néanmoins vous donnez des noms à Sciences Po Lille, notamment en master, et enfin vous êtes chargé de mission inclusion au sein de l'IEP. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir David Delfolly. Bonjour. Vous êtes maintenant enseignant-chercheur à Sciences Po Lille et vous êtes associé à l'IRASEC, l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Vous êtes bien sur les podcasts de la recherche, donc présentés par Sciences Po Lille. Nous recevons aujourd'hui monsieur David Delfolly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, une première question, comment faites-vous pour mener toutes ces activités en parallèle?
Alors, comment je trouve le temps de faire tout ça? Déjà, je suis bien organisé. Et j'ai appris avec le temps à optimiser mon emploi du temps. Sinon, j'aime beaucoup travailler, donc j'essaye de faire au mieux.
Et vous pensez que ces capacités d'adaptation et d'organisation, elles font partie intégrante des prérequis pour être enseignant-chercheur ?
Certainement, oui. Parce qu'on a toutes et tous une charge de travail qui est importante. Et donc, oui, c'est nécessaire d'être au moins bien organisé. Ouais.
D'accord. Et du coup, une deuxième question un peu plus classique sur ce podcast. Qu'est-ce qui vous a mené à la recherche ?
Oh, la passion. Je crois que c'est un métier qu'on ne fait pas si on n'a pas le goût de comprendre, d'apprendre, le goût des autres. Alors, c'est un peu un cliché, hein, puisque tous les chercheurs racontent ça, mais c'est quand même très vrai.
D'accord. Et vous, par rapport à votre position au sein de cette école, quelle place pensez-vous qu'occupe la recherche à Sciences Po Lille ?
Ah, une place importante. La majorité de l'équipe permanente de l'école mène à la fois des activités d'enseignement et de recherche. Certains de nos collègues dans l'université ne sont que chercheurs, c'est notamment le cas des chercheurs CNRS. Ici, la caractéristique d'une école comme Sciences Po Lille, qui n'a pas de laboratoire de recherche en propre attaché à l'établissement. Alors, il y a une co-direction sur le CERAPS avec nos collègues de Lille, mais on n'a pas de personnel du CNRS notamment. Donc, tout le monde cumule des fonctions à la fois d'enseignement et de recherche.
D'accord. Aujourd'hui, en plus de tout ce travail que vous effectuez à Sciences Po Lille, vous êtes associé à l'IRASEC. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous en dire en tout cas un peu plus sur le rôle de cette organisation, sur ses missions, sur ses valeurs?
Alors, l'IRASEC, c'est ce qu'on appelle une UMIFRE. C'est une unité mixte de recherche qui fait partie des centres de recherche français à l'étranger. Là, en l'occurrence, c'est l'UMIFRE qui a une vocation de travail sur l'Asie du Sud-Est. Donc, il couvre l'ensemble de la zone ASEAN, pour faire simple. Donc, c'est un laboratoire de recherche donc, qui impulse des projets, qui gère des publications, des projets éditoriaux, qui accueille des chercheurs en résidence et qui organise un certain nombre d'événements scientifiques, soit en partenariat avec des institutions françaises, mais aussi et surtout, et c'est l'intérêt d'un laboratoire comme celui-là, d'organiser aussi des événements en lien avec nos collègues d'Asie du Sud-Est, donc avec des universités partenaires sur place, des centres de recherche qui se trouvent dans la région. C'est la vocation des centres de recherche à l'étranger, c'est aussi de faire ce qu'on appelle de la diplomatie académique qui participe directement à la diplomatie d'influence de la France et notamment par sa politique scientifique de coopération universitaire. Et donc ce sont des unités de recherche qui sont particulièrement importantes. C'est une des spécificités françaises d'avoir un réseau de centres de recherche, de laboratoires de recherche à l'étranger qui démultiplie les collaborations, les coopérations à peu près partout dans le monde. Donc voilà, c'est le rôle particulier de l'IRASEC donc, auquel je suis chercheur associé.
D'accord. Déjà, merci pour votre éclairage là-dessus. Et pour revenir un petit peu sur votre production, vous, en tant que chercheur, en 2011, vous avez donc présenté votre thèse en vue de l'obtention d'un doctorat en sociologie qui s'intitulait, je le rappelle, « État, société et religion en Malaisie, sociologie historique des dynamiques de l'islam et de leur implication dans le champ public ». Elle traite notamment de la construction de l'État malaisien au sortir de sa colonisation, donc à partir de 1957, et de la place de l'islam dans la construction d'un compromis constitutionnel et d'un récit national dans une société qui est plurielle, comprenant des cultures qui sont très variées. Vous y expliquez notamment que l'islam s'est imposé comme une matrice identitaire, politique et socioculturelle, menant des divisions et de nombreuses rivalités. Et donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, la Malaisie est considérée comme un régime hybride, aux caractéristiques à la fois rattachables à un régime démocratique et autoritaire. Et donc comment le champ universitaire, et plus précisément la recherche, se développe dans un état dont les libertés demeurent restreintes?
Alors, quand on parle de liberté restreinte en Malaisie, on va quand même mettre des nuances. Si on prend l'échelle de la zone ASEAN, la Malaisie n'est pas dans une position comparable, par exemple, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, où on a des régimes de parti unique. Donc, on n'est pas dans ce contexte-là en Malaisie. On est dans le cadre d'une démocratie, donc avec un système partisan qui est pluraliste, des résultats des élections qui sont respectés, y compris quand l'opposition gagne soit certains États, ou comme en 2018, lorsque l'opposition a remporté la majorité au Parlement fédéral. D'ailleurs, depuis 2018, il y a une amorce. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le pays, à la fois sur les libertés collectives et individuelles, mais aussi sur pratiques comme ça du jour au lendemain, mais même s'il y a une amélioration qui est conséquente depuis 2018 au niveau de la justice, au niveau d'un certain nombre de législations liberticides. Mais le contexte malaisien est moins autoritaire que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays de la région. Donc, au niveau de la liberté scientifique, même s'il y a énormément de contraintes, et on a encore pas si longtemps que ça des collègues qui ont été poursuivis en justice, notamment pour sédition, parce qu'ils travaillent sur des sujets qui sont considérés comme critiques, sensibles, ou avant 2018, je faisais référence à cette date un peu historique, hein, c'est la première fois qu'on avait une alternance parlementaire dans le pays. Donc les choses s'améliorent, mais on avait avant cette date encore des collègues qui pouvaient être poursuivis, ou sur lesquels il y avait une grosse pression qui pouvait s'exercer. Là aujourd'hui, je dirais qu'en termes de liberté scientifique et académique en Malaisie, on est plutôt sur de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il reste des sujets sur lesquels c'est un peu sensible. Donc les gens hésitent parce qu'il y a une pression interne au niveau des universités, des laboratoires de recherche. Ça reste un système qui est très hiérarchisé dans les universités malaisiennes. Certains collègues évitent de travailler sur certains sujets, notamment tout ce qui touche à la place de la royauté, ce qui touche au statut particulier de l'islam dans le pays, à la position spéciale de la population malaise qui bénéficie du système de discrimination positive au niveau de l'État. Bon, donc sur ce sujet-là, ça reste des sujets qui sont polémiques, sensibles, et c'est plus de l'autocensure que de l'interdiction de travailler là-dessus. Après, on a beaucoup de collègues malaisiens qui travaillent sur des sujets qui sont sensibles, critiques, qui peuvent amener à des implications politiques, qui peuvent les soumettre à des formes de pression dans leur travail quotidien. Mais vous savez, dans les régimes un peu autoritaires, les gens ont appris aussi à parfois contourner un peu la censure, à arriver à dire des choses, alors sans aller trop loin dans la critique pour ne plus pouvoir travailler, mais ils arrivent quand même à sortir des choses. Et je vois avec les collègues malaisiens avec qui je travaille régulièrement, déjà c'est des collègues de très très bon niveau, des collègues avec qui le dialogue scientifique est tout à fait fluide, cohérent, intéressant. Et ils ont conscience aussi d'un certain nombre de choses, mais en même temps ils travaillent comme nous on pourrait le faire, alors un peu plus sous contrainte que dans un pays démocratique comme le nôtre, mais voilà. Les choses se font.
En tout cas, on voit que vous êtes très bien renseigné sur le sujet, et ça m'amène à ma seconde question. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à la Malaisie et plus largement à l'Asie du Sud-Est?
Alors je vais dire que c'est le destin. J'ai eu l'occasion, quand j'étais au lycée, de voyager dans la région, en Indonésie, pour être précis. Et puis ça a été la révélation de ma vie, en fait. Un choc. Avant de partir, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, j'étais encore jeune. À l'époque, ce n'était pas comme dans votre génération. On voyageait moins, on était moins connaisseurs du reste du monde. Donc j'avais quelques vagues idées ou quelques clichés Et puis en étant sur place, c'était une vraie révélation pour le pays, pour la culture. J'étais fasciné par ces sociétés musulmanes et asiatiques, puisque dans mon esprit, l'islam était surtout associé au Maghreb ou aux pays arabes de manière générale. Et j'ai trouvé l'histoire, la culture de ces pays, en tout cas la culture malaise particulièrement intéressante. Et puis j'ai eu l'occasion, quand j'étais étudiant à Sciences Po Lille, de faire mon stage en Malaisie cette fois-ci. Et j'ai retrouvé en Malaisie tout ce que j'avais beaucoup aimé en Indonésie, mais encore plus. J'ai davantage aimé l'histoire du pays, davantage aimé ce que j'y ai vu. Et puis dans le domaine des sciences humaines et sociales, j'ai trouvé qu'il y avait des choses en Malaisie qui étaient particulièrement intéressantes. Cette société multicommunautaire qui est le réceptacle d'influences multiséculaires qui viennent de différents horizons. On est vraiment au carrefour en Asie du Sud-Est. Hein. Une zone de carrefour d'influences diverses qui, au cours de l'histoire, se sont un peu sédimentées par strates et qui donnent aujourd'hui des choses très, très intéressantes. D'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui des pays de carrefour. C'est des pays qui sont très intéressants. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est un vrai laboratoire pour nos disciplines. Ça permet, par ce détour, ce qu'on appelle le détour par l'extérieur, de questionner aussi des objets de nos sociétés, mais dans un contexte qui rend les choses très, très saillantes à observer sur toutes ces questions fondamentales autour, alors certes de la démocratie, on en a parlé, mais également des relations entre religion et politique, religion et société, sur les régimes de pensée. Sur le syncrétisme, sur l'hybridation d'un certain nombre de choses, de phénomènes qui sont particulièrement intéressantes à observer. On a aussi quelque chose dans ces pays qui est fascinant à regarder de près, c'est l'accélération de l'histoire en termes de développement qu'on a eu depuis plusieurs décennies, où quand on regarde de près, on a des agencements entre ce qu'on appelle, avec beaucoup de guillemets, tradition et modernité, qui donnent des choses qui sont passionnantes, oui, à décrypter, à comprendre. Et c'est pour ça que ça en fait des pays particulièrement passionnants quand on est chercheur.
Justement, vous êtes chercheur, et est-ce que vous pensez que votre posture de sociologue français, et donc extérieur finalement au pays et à sa situation socio-historique et religieuse, elle vous procure un point de vue particulier dans vos recherches ?
Nécessairement, quand on travaille sur un objet, et là on va considérer que le pays est un objet, on accumule du savoir, on accumule un regard, des grilles d'analyse. Mais la différence avec un objet qu'on regarderait de l'extérieur, là, quand on fait de la recherche de terrain dans ces pays, finalement, le terrain devient aussi une partie de notre vie, puisqu'on on y vit, on y noue des liens, on s'y crée des souvenirs. Moi, je passe beaucoup de temps, j'aimerais en passer plus, mais je passe déjà beaucoup de temps en Asie du Sud-Est depuis très longtemps. Hein, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille notamment sur la Malaisie. Donc cette connaissance approchée, comme on dit, du pays, elle est aussi liée à l'expérience sensible que j'ai avec la région, avec ces latitudes que, du coup, j'ai appris à connaître et sur lesquelles je continue à apprendre beaucoup de choses en étant en immersion sur le terrain. Et donc, au bout d'un moment, il y a tout un travail à faire entre, justement, notre propre expérience, parce que la Malaisie, c'est aussi une partie de ma propre existence. Donc, il y a une distance critique à arriver à mettre en place pour pouvoir continuer à travailler sereinement et pas être pollué, je dirais, avec des impressions personnelles. Le travail scientifique, il nécessite un certain nombre de prérequis, notamment une distance critique, une réflexion qui est sans cesse à réévaluer. Le plus grand piège pour un chercheur, c'est de ne plus avoir de doutes et surtout d'avoir des certitudes. Donc quand on commence à être vraiment très familier d'un endroit, on peut être sujet justement à ce risque de la facilité, d'avoir des réflexes, des certitudes. Et donc il y a toujours un travail qui a fait. Pour le dire autrement, un des éléments qui préserve de la tentation de perdre un peu en objectivité et puis de finalement de faire moins correctement le travail de chercheur, c'est justement les allers-retours que je fais entre ici et là-bas, pour reprendre une expression de Clifford Geertz. Ça permet à chaque fois de reprendre du recul sur le contexte local, parce que j'écris essentiellement ici. Et cette différence de temporalité entre les moments où j'écris sur la Malaisie, ou qui ne se font pas sur place, et les moments où je suis en immersion sur le terrain, en entretien, en observation. C'est nécessaire, ce travail d'aller-retour entre des... C'est pas uniquement une histoire de localisation, c'est aussi une histoire de mise à distance géographique même, de ce qu'on peut retirer comme souvenir, comme impression sur place. Et moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Après, y a une autre dimension qui est importante, c'est que moi, j'ai totalement été adopté par la Malaisie, et j'ai totalement adopté la Malaisie. Je me sens en partie de là-bas, en tout cas très lié avec cette région, avec la culture, avec ce que je peux y découvrir, y connaître sur place. Et forcément, on met beaucoup de soi dans les travaux, mais je fais systématiquement un effort. D'ailleurs, je l'avais déjà fait dès ma thèse, pour mettre à distance un certain nombre de choses. Moi, ça passe aussi par l'écriture, c'est-à-dire le fait d'écrire et d'écrire même un peu froidement sur ce que je peux observer, c'est aussi une manière de prendre un peu de distance parfois avec je vous dis, certaines tentations ouais.
Je me permets de revenir maintenant sur votre rôle d'enseignant-chercheur au sein de Sciences Po Lille et sur les différentes missions que vous pouvez avoir ici, notamment parmi les nombreuses activités pédagogiques et de recherche que vous menez. Vous êtes également chargé de mission inclusion. Vous parlez notamment au sas d'entrée pour les entrées directes en quatrième année. Et pouvez-vous d'abord nous donner votre définition finalement de l'inclusivité au sein d'une grande école comme l'IEP de Lille ?
Ah, l'inclusion, elle n'est pas seulement pour une grande école au sein de Sciences Po Lille, là, s'agissant au moins de l'enseignement supérieur. Pour moi, ça fait partie intégrante de la démocratisation des études. Alors, quand on parle de démocratisation, on imagine d'abord des dispositifs comparables à celui de PU, qu'on a aussi en interne. Mais pour moi, l'inclusion, c'est un peu assimilable à ce que beaucoup d'associations de défense des personnes en situation de handicap ont adopté comme slogan, c'est rendre accessible tout à toutes et tous. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça, l'inclusion. C'est réduire certaines inégalités liées au handicap, mais pas seulement. L'inclusion, ça déborde un peu plus le champ du handicap, tel qu'on le conçoit sur un plan strictement médical. On peut être en situation de handicap de manière très, très temporaire, comme de manière plus durable, avec des pathologies invalidantes ou avec des handicaps bien identifiés ou bien compris. L'inclusion, c'est vraiment ça. Il y a une dimension très, très égalitaire dans la manière, en tout cas, dont moi je le conçois.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ces responsabilités en tant que chargé de mission ?
Alors, ça fait pas mal d'années maintenant que je travaille sur ces sujets. D'abord à Sciences Po Paris, dans le cadre d'un programme expérimental qui avait été mené par l'établissement pour lequel j'avais été recruté. Et puis ensuite, ici, de manière pérenne à Sciences Po Lille, puisque ici, je tiens à rappeler que le poste de chargé de mission inclusion n'est pas un poste expérimental, c'est un poste qui s'est déployé dans l'organigramme de l'établissement de manière durable, et qui nous permet d'avoir une action qui aujourd'hui regarde de près à la fois par nos autorités de tutelle, mais également par d'autres établissements qui observent et qui regardent ce qui se fait à Sciences Po Lille, notamment sur les actions très concrètes qu'on a mis en place sur l'accompagnement dans les études, sur spécifiquement sur certains troubles cognitifs qui sont de plus en plus nombreux, voilà, sur des choses de cette manière. Aujourd'hui, on est considéré un peu comme un centre ressources experts. Bon, alors l'expression, elle est un peu pompeuse, mais on peut essayer de progresser ensemble. Est-ce que nous faisons, nous, ici, à Sciences Po Lille, peut aider, inspirer d'autres établissements? La chance qu'on a, c'est d'être une école qui reste à taille humaine, donc dans lequel il est plus facile que dans des grands établissements de mettre en place des choses, de faire de l'expérimentation, d'essayer de changer un peu les pratiques et à partir de notre expérience, les essaimer ailleurs. Donc c'est ce que je fais par exemple dans le cadre de formation ou de sensibilisation que je propose à d'autres établissements et pour lesquels on est de plus en plus sollicité. C'est de continuer à progresser dans la mise en place de roder les dispositifs qu'on essaye de mettre en place. Quoi.
Envisagez-vous donc ici à Sciences Po Lille de prendre de nouvelles responsabilités au-delà de toutes celles que vous avez déjà, comme la direction d'un master par exemple?
Écoutez, a priori à court terme non, parce que je suis déjà bien occupé entre le volume d'enseignement, entre mes activités de recherche, notamment comme co-directeur de l'Institut Pando Pranchis à Kuala Lumpur, les activités de chargé de mission à inclusion sur lesquelles il y a tant à faire, et puis l'implication pédagogique que j'ai dans l'établissement comme mes collègues pour encadrer des stages, pour encadrer les mémoires, des bachelor arbeit, tout le travail d'accompagnement pédagogique qu'on fait auprès des étudiantes et des étudiants dans l'établissement. Donc non, je suis déjà suffisamment occupé, je ne vise pas d'autres fonctions.
Est-ce que vous pensez que du coup, acquérir de nouvelles fonctions comme la direction d'un master, ça biaiserait quelque part le temps et toute l'implication que vous avez dans la recherche?
Oui, c'est difficile de se démultiplier, et je me démultiplie déjà beaucoup. La coordination de parcours pédagogique, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'implication. Alors, je le fais déjà avec mon collègue Étienne Perra pour la coordination de la transverse espace Asie-Moyen-Orient. Voilà, non, je n'ai pas d'autres ambitions dans l'établissement que de continuer à assurer les fonctions que j'essaye déjà d'assurer au mieux.
Très bien. Et en tout cas, pour revenir sur tout le travail conséquent de chercheurs que vous avez produit et que vous continuez de produire, en 2021, vous avez dirigé l'écriture de l'ouvrage Malaisie contemporaine avec de nombreux chercheurs brillants comme Nathalie Faux, Elsa Laffaine-Michaud, et dans une démarche pluridisciplinaire d'ailleurs. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
Oui, alors cet ouvrage en fait est un ouvrage collectif qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est la première monographie pluridisciplinaire en langue française qui est faite sur la Malaisie. Donc, qui réunit des chercheurs qui sont issus de différentes disciplines. On a des économistes, des géographes, des politistes, sociologues, des gens qui travaillent sur le domaine culturel également. Ça, c'est déjà la première caractéristique de cet ouvrage qui était attendu par de nombreux collègues, parce que la Malaisie est un pays qui est particulièrement intéressant, je l'ai rappelé, pour les sciences sociales, et donc ça manquait dans le paysage académique. Il y a une deuxième caractéristique de cet ouvrage, ça réunit des chercheurs qui sont à la fois francophones et anglophones, des chercheurs qui sont français, on a des collègues aussi d'autres pays occidentaux, mais également des chercheurs asiatiques, et en particulier malaisiens, mais pas que. Donc ça donne des regards qui sont très, très croisés. C'est vraiment le produit d'une coopération franco-malaisienne, cet ouvrage, qui est d'ailleurs à l'initiative de l'IRASEC, dont on a déjà parlé. Et puis là, une autre caractéristique, cette, cet ouvrage, c'est qu'il éclaire un certain nombre de dimensions qui ne sont pas nécessairement les plus attendues quand on pense à un pays comme la Malaisie. Et donc, notamment, il y a toute une partie de l'ouvrage qui est consacrée aux relations internationales, et notamment avec deux chapitres qui traitent des questions d'intégration régionale. On voit à quel point aujourd'hui en Asie on a vraiment une dynamique d'intégration régionale à l'échelle de l'ensemble du continent qui a des répercussions sur les grands équilibres internationaux. Et donc c'était intéressant aussi de regarder ce prisme à travers un pays qui depuis très longtemps a une politique dite de hedging, c'est-à-dire d'équilibre de réassurance des risques. Qui est un positionnement dans les relations internationales, alors qui devient de plus en plus courant. Mais à l'époque où la Malaisie avait développé cette politique, c'était pas si courant que ça. Et c'est très intéressant aujourd'hui de regarder à la fois dans le contexte des bouleversements internationaux qu'on connaît, et puis à la fois à l'échelle de l'Asie en transformation, comment ce pays gère ses relations extérieures. C'est une source de beaucoup d'enseignements. Et puis je vous dis, cet ouvrage éclaire aussi des aspects qui sont un peu moins attendus, certains aspects culturels, et on sait à quel point la culture est un marqueur aussi de pas mal de transformations politiques. Donc là aussi, c'était intéressant de multiplier, de varier les points de vue.
D'accord. Enfin, afin de clôturer ce podcast, quels conseils donneriez-vous à une jeune étudiante ou un jeune étudiant qui souhaiterait se lancer dans la recherche ?
Moi, je voudrais distinguer quelque chose, c'est que, selon moi, on ne fait pas le métier d'enseignant et de chercheur pour les mêmes raisons. Je continue à rester convaincu qu'on choisit d'abord le métier d'enseignant par vocation. Alors, je sais que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, je reste convaincu qu'on ne peut pas faire ce métier sans avoir quelque chose qui relève de la vocation. Pour le travail de chercheur, c'est un petit peu différent. Il faut être passionné, mais c'est davantage quelque chose, un goût qui se construit dans le temps. C'est difficile quand on est étudiante ou étudiant de savoir d'avance si le métier de chercheur va plaire ou pas. La recherche, on y prend goût en pratiquant. Et on peut trouver ça sur le papier intéressant parce qu'on a une curiosité intellectuelle pour un objet, par exemple, ou pour un thème. Et puis finalement, quand on se familiarise à ce qu'est le milieu de la recherche, parce que la recherche, c'est pas juste être sur le terrain, c'est aussi écrire, c'est aussi s'insérer dans un univers, dans un champ professionnel qui a ses contraintes, qui a ses difficultés, notamment sur le plan éditorial, sur le plan de son organisation, de ses hiérarchies. Quand on épouse un métier, on épouse l'ensemble des caractéristiques. On a encore le statut d'étudiant. Je suis pas certain qu'on puisse se projeter véritablement sur ce que c'est qu'une carrière de chercheur avant de le pratiquer. Alors déjà dans le cadre du master, hein, et le travail de mémoire de recherche, c'est déjà une initiation intéressante, mais qui est pas suffisante pour comprendre dans une démarche vraiment professionnelle quoi ça retourne. Donc moi, je fais vraiment une différence entre enseigner, et ça, on sait très vite si on aime ça, si on a envie de faire ça, le goût de transmettre. Alors même si la recherche, c'est aussi de la transmission de connaissances, ça ne se fait pas dans un agencement ou dans une configuration qui est similaire à celle qu'on fait quand on est enseignant. Donc pour moi, c'est quand on dit qu'on est enseignant-chercheur, pour moi, ce sont des métiers qui sont naturellement interdépendants, liés, qu'on ait beaucoup à faire de manière conjointe. Mais pour moi, ça relève d'appétence personnelle, professionnelle, de compétences qui sont assez différentes.
D'accord. Eh bien, en tout cas, merci pour votre temps, merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère que cet entretien vous a plu et on se dit à très vite dans les podcasts de la recherche.
Merci à vous. Beaucoup.